Est-ce que je vous ai donné la page d'ailleurs? Vous rappelez les deux formules? Tefilot, avot, tikkenun. Je vous ai parlé de ça?
Oui.
Et tefilot, keneged, korbanot, tikkenun. Vous avez les formules en tête? Oui? Ça va? Est-ce que je vous ai donné la référence?
Tamuz B26.
Non, alors c'est 26B.
Vous avez 26B.
Attends que je vérifie. C'est ça, 26B. Alors, la première formule, vous la retiendrez à l'institution du droit à la prière. Vous la relirez à l'institution du droit à la prière. Et je crois que je vous ai parlé déjà du détail. Nous aurons l'occasion une fois de voir ce texte en nuit d'étude, peut-être plus tard. C'est que la prière du matin correspond à Abraham, la prière de Mincha à Yitzhak, la prière de Arvit à Yaakov. Bon, tout ce problème-là, nous le reprendrons d'une autre manière. Et d'autre part, la deuxième formule institue la forme du rite de la prière, Shachrit, Mincha, Arvit, en particulier le Shmoneh Esrei, à partir de la destruction du temple. C'est-à-dire, tant que le temple existait, le rite de l'expiation se faisait par le rite des sacrifices, dont j'ai un petit peu parlé la dernière fois, mais il faudra reprendre ça de façon plus systématique. Si vous avez des questions qui se sont greffées sur ces sujets, notez-les, on les reverra d'autre part. Et à partir de la destruction du temple, une question importante s'est posée, par quoi remplacer le rite du sacrifice? Il y a différents substituts, je vous les ai peut-être énumérés, sinon on les verra une autre fois encore, mais en particulier, le comportement de la prière en tant que rite de demande a été structuré de manière telle qu'il devienne par lui-même un substitut au rite de l'expiation. Et c'est du dedans, du rite de la prière devenu un devoir, une mitzvah qui se substitue à celle des korbanot, à celle des sacrifices, que est formulée la demande. Tout cela, vous le verrez beaucoup plus clairement et beaucoup plus en détail dès qu'on commencera à étudier le texte. Donc ça c'est pour résumer un peu le point où nous sommes arrivés la dernière fois. Encore une fois, pour bien simplifier, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a deux comportements de prière. Et prière, ça signifie tefila, c'est-à-dire rite de la demande, qui sont différents, le droit à la prière et le devoir de prière. Retenez déjà ce schéma. C'est bien clair jusque-là, quand même. Vous pouvez le noter d'ailleurs en hébreu. On a l'habitude, enfin dans le jargon des yeshivot, de dire ça comme ça. Le premier s'appelle tefila, tefila, une tefila qui est une tefila, c'est-à-dire le droit à la demande. Et le deuxième s'appelle tefila mitzvah, la tefila qui est un devoir. Par conséquent, tout ceci restera un peu en suspens, ce point-là, jusqu'au moment où nous étudierons la question des sacrifices pour elle-même. J'ai à peine touché la dernière fois. Mais vous avez quand même suffisamment d'éléments pour y réfléchir par vous-même jusqu'à vous familiariser à cela. Alors, il me reste une dernière question parmi d'autres possibles, d'ailleurs, pour la structure fondamentale des offices. En principe, déjà cette semaine, avec David, vous avez dû voir en dinim, en tout cas ceux qui étaient là, la structure du Kriyat Shema. Okay? Et les Brachot. Oui, vous y êtes. C'est là que vous êtes arrivés. Bon. Alors, la question que je vais poser maintenant, c'est le lien qu'il y a entre ces deux rites, le Kriyat Shema et la Bracha, et la Tfila du Shmoneh Esrei, à Arvit et à Shachrit. À Shachrit et à Arvit. Alors, nous allons commencer à étudier ce problème. C'est-à-dire, en fait, il y a là deux rites radicalement différents de nature, et qui, surtout, ont une réglementation du point de vue de l'horaire. Le temps du Kriyat Shema et le temps de la prière sont en eux-mêmes différents. Je vais donner un petit exemple pour éclairer ce que je veux dire par là. C'est-à-dire, par exemple, prenons le temps de la prière du soir. Une première question que le Talmud va poser, c'est à partir de quel moment on doit dire le Kriyat Shema du soir ? Est-ce que vous avez déjà touché cette référence dans un autre cours?
Non.
Vous êtes sûr? Même pas en bibliographie? Vous n'avez pas eu ça comme exemple? Bon. Alors je vais prendre cette formule, sans l'analyser en détail, mais pour que vous compreniez un exemple de ce que j'entends par le temps d'un rite. Peut-être pour vous éclairer ça. Vous connaissez le rite du chauffard. Okay? Vous savez qu'à Rosh Hashanah, on sonne le chauffard. Dans d'autres occasions aussi, mais particulièrement, à Rosh Hashanah, c'est une mitzvah de sonner le chauffard. Tout le monde sait ce que c'est. Okay? Et par conséquent, pardon ?
C'est une trompette ?
Non, c'est pas une trompette. Et par conséquent, le fait de sonner du chauffard un autre jour de Rosh Hashanah, ça consiste à sonner du chauffard, mais pas à accomplir la mitzvah du chauffard. Vous avez compris le problème ? Ça veut dire que le comportement, par exemple dans cet exemple, le comportement de sonner du chauffard est mitzvah par rapport à une règle de temps. À un certain moment du temps, c'est mitzvah. En dehors de ce temps-là, ce n'est pas une mitzvah. C'est un comportement qui peut avoir sa valeur propre, mais qui n'est pas la mitzvah elle-même. Est-ce que c'est clair ? La formule en ce qui concerne le chauffard, c'est « atokear lashir yatsa ». Ça veut dire, celui qui sonne du chauffard, même pour jouer de la trompette, si vous voulez, mais c'est le jour de Rosh Hashanah, a accompli la mitzvah qui consiste à sonner du chauffard. C'est-à-dire, même s'il n'a pas l'intention d'accomplir cette mitzvah, le fait de faire ce qu'il fallait faire, au moment où il fallait faire, fait qu'il a accompli la mitzvah. Tandis que si quelqu'un sonne du chauffard, même dans l'intention d'obéir à la mitzvah, de sonner du chauffard en dehors de Rosh Hashanah, il n'a pas du tout accompli la mitzvah. Vous avez compris cela ? Non ? Pas encore ? Donnez un autre exemple. À Pessah, on mange de la matzah. Vous savez, tout le monde sait ce que c'est que la matzah ? Top. Alors, manger de la matzah en dehors de Pessah, c'est pas du tout accomplir la mitzvah qui consiste à manger de la matzah. Parce qu'elle n'est mitzvah que dans le temps de Pessah. De la même manière que le chauffard n'est mitzvah que le temps de Rosh Hashanah. Ça va jusque-là ? Ok. Non, mais en particulier, les mitzvot du rite de la prière sont en rapport avec le temps. Il y en a d'autres aussi. Alors, c'est une première catégorie de mitzvah que vous découvrez là, qui n'est mitzvah qu'au moment où on le fait. Que si on le fait au moment où c'est mitzvah. T'as bien compris ? Ça s'appelle en hébreu mitzvah she'azman garma. La mitzvah, que c'est le moment qui entraîne que c'est une mitzvah. Mitzvah she'azman garma. Je vais mettre ça au tableau quand même. Non, c'est un autre problème, je ne voudrais pas les mélanger. Le signe que c'est au moment qu'il faut que ce soit une mitzvah, que l'acte est fait comme mitzvah, c'est qu'on dit une bénédiction. C'est clair ? Mais on reviendra sur d'autre part, c'est des sujets. Alors, mitzvah, chasman, grama, zavanez, voilà. En hébreu, vous avez le mot de gorem, qu'est-ce que ça veut dire un gorem ? Nigrom.
Une cause, un facteur.
L'igrom, entraîner quelque chose, causer quelque chose. Un gorem, c'est un facteur de cause, de causalité. Alors, là, il s'agit donc de comportements qui ne sont mitzvah que dans un certain temps considéré. Je voudrais ici une parenthèse sur un sujet plus général qui se rattache à ce point. Vous le mettrez dans les parenthèses. Et lorsque nous étudierons le problème du bien et du mal, nous verrons que la perspective de la Torah fait que, à la limite, on ne peut pas parler de mal absolu ou de bien absolu. Ça dépend des conditions. Il n'y a aucun acte qui soit interdit par la loi qui ne soit permis dans certaines conditions. Il n'y a aucun acte qui soit considéré comme un devoir par la loi qui ne soit interdit dans certaines conditions. Retenez le principe déjà formellement et réfléchissez. Est-ce que c'est clair ce que je dis là ? Encore une fois, je reprends l'exemple du chauffard. Sonner du chauffard en dehors de Rosh Hashanah, c'est sonner du chauffard. Mais à Rosh Hashanah, pour les raisons qu'on étudiera à propos de cette mitzvah en particulier, ça devient une obligation. et ainsi pour toutes les mitzvot qui ne sont mitzvah que dans le temps, qui ne prennent valeur de mitzvah que dans un temps particulier. Alors je suppose que vous avez déjà en tête une question, sinon je vais la poser moi-même. C'est le problème de la bar mitzvah. Avant la bar mitzvah, on n'est pas soumis à obligation, et les mitzvot ne deviennent obligation qu'à partir du temps de la bar mitzvah. Je crois que c'est l'exemple qui peut bien vous éclairer. Tout le monde comprend ce que c'est de la bar mitzvah ? Ok ?
Donc si on fait
une
bar mitzvah après 13 ans, c'est plus mitzvah ?
Quand tu dis faire la bar mitzvah, tu penses à quoi ? Il n'y a aucune mitzvah qui consiste à faire la bar mitzvah.
Par exemple, si quelqu'un a 13 ans, n'a pas fait sa bar mitzvah.
Non. Tu penses à la cérémonie de la bar mitzvah ?
Oui.
Non. Je vais te dire, la bar mitzvah, c'est le moment de la puberté. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle les garçons, c'est un an plus tard que les filles. Enfin, ou les filles, c'est un an avant les garçons. La bat mitzvah. Ça veut dire, à partir du moment où un enfant est majeur du point de vue de la nature, la puberté, c'est-à-dire qu'il est capable de donner la vie à son tour, à ce moment-là, il devient responsable de ses actes. La cérémonie de la bar mitzvah, c'est une cérémonie. Mais le fait d'être bar mitzvah prend acte, c'est pas devient effectif, à partir du moment de la puberté. C'est la raison pour laquelle la règle formelle de la bar mitzvah consiste à fixer le moment où il y aura la cérémonie qui prend acte que l'enfant est bar mitzvah ou bat mitzvah à ce moment-là. Je veux dire, on n'est pas bar mitzvah parce qu'on a fait la cérémonie. On est bar mitzvah au moment de la puberté. Et on est bat mitzvah au moment de la puberté. Vous voyez, c'est clair ? C'est-à-dire, on réétudiera ça en détail. Avant ce temps-là, l'enfant n'est pas soumis à obligation. C'est le père qui est soumis à obligation pour lui. Quelle obligation ? De l'éduquer. Alors, avant la bar mitzvah, le temps s'appelle bar chinour. On est soumis à l'obligation de l'éducation, mais pas à l'obligation des mitzvot comme telles. Est-ce que c'est clair ? Bon. Mais je reprendrai d'ailleurs cette question, elle est très importante, parce que c'est tout le problème de la pédagogie de l'enfance, et ce principe vous permet de comprendre qu'il ne faut pas charger l'enfant avant la bar mitzvah de fausses culpabilités. Avant la bar mitzvah, un enfant n'est pas soumis à obligation. C'est clair ? Vous comprenez que ça veut dire la fausse culpabilité. Ça veut dire se sentir coupable d'une conduite de laquelle on n'est pas redevable devant la loi. C'est clair ?
Redevable ou conscient ?
Redevable. Il y a, si vous voulez, une différence d'âge de la maturité, même dans ce temps de l'avant la bar mitzvah. Être conscient qu'on se prépare à être soumis à des obligations, ça c'est de l'ordre de l'éducation. Mais avoir conscience que l'on doit, que c'est interdit, que c'est permis, ça ne commence qu'à la bar mitzvah. Vous avez compris pour moi ? Bon, je reviendrai d'ailleurs là-dessus. Alors donc, je reprends cet exemple du Kriyat Shema. La première question que pose le Talmud, la première Mishnah, dans la Maaseret Brachot, c'est à partir de quand on dit le Kriyat Shema le soir ? Il y a d'abord un premier postulat, c'est que le soir, il faut dire le Kriyat Shema. Mais le fait de dire le Kriyat Shema n'est mitzvah vraiment que si les circonstances qui font que c'est une mitzvah sont apparues, en particulier du point de vue du temps. Avant le temps du Kriyat Shema, ce n'est pas le temps. Et si je dis le Kriyat Shema avant le temps, j'ai dit une belle chose, mais je n'ai pas réalisé la mitzvah du Kriyat Shema. Et je vais tout de suite vous expliquer pourquoi, vous allez comprendre. Quel est le sens de la première phrase du Kriyat Shema, de cette profession de foi? Il s'agit de la profession de foi de quoi? Parle plus fort. Regarde, je t'arrête tout de suite, ne dites jamais Adoshem. Je ne sais pas d'où est sorti ce barbarisme. Je vais vous expliquer d'où il est sorti. On ne dit jamais ça. Okay, on dit Hachem. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Dans certaines communautés, surtout en Occident, et comme on ne veut pas prononcer le nom de Adonai en chantant ou en apprenant à chanter, alors on a besoin de trois syllabes. Alors on ne peut pas dire Hachem, ça fait que deux syllabes. Alors on dit Adoshem, ça fait trois syllabes. Mais c'est un barbarisme épouvantable. Enlevez-vous ça de la tête. Okay, c'est clair? Sinon vous risquez un jour, en montant la Torah, de dire Adoshem au lieu de dire Adonai. Et ça arrive souvent. Ça a dû vous arriver d'ailleurs. Ça va? Alors dites Hachem, mais pas Adoshem. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Le mot important de l'affirmation de cette profession de foi dans le Kriyat Shema, c'est quoi ? C'est quel mot ? Echad. C'est-à-dire, c'est l'affirmation de l'unité de Dieu. C'est clair ? Qu'on étudiera pour Adam. Alors, la Torah institue la nécessité comme obligation de cette affirmation au moment où c'est nécessaire. Quand est-ce c'est le moment où c'est nécessaire ? C'est lorsqu'on risque d'avoir expérience de passer d'un monde à un monde tellement différent que pourrait apparaître l'hypothèse combien y a-t-il de divinité. En particulier pour notre problème, c'est le passage du jour à la nuit et le passage de la nuit au jour. Donc, le temps de la mitzvah du Kriyat Shema, c'est quand on passe du jour à la nuit et quand on passe de la nuit au jour. C'est clair ? Vous avez compris comment le moment entraîne la nécessité d'une obligation. Alors, pour bien comprendre ça, il faut un peu se débarrasser du caractère artificiel de la vie civilisée. Disons, si vous voulez, grâce à l'électricité, on finit par plus voir la différence qu'il y a entre le jour et la nuit et le jour. Mais la perception du monde le jour et la perception du monde la nuit est différente. Les deux mondes sont tellement différents que, et il y a eu énormément de religions idolâtres qui se sont basées là-dessus pour affirmer un dualisme de deux divinités différentes, la divinité du jour, la divinité de la nuit. Vous comprenez ce problème ? Okay. Alors précisément, pour lutter contre ce risque d'impression de l'expérience que nous avons du monde, le domaine du jour et le domaine de la nuit est tellement différent que peut-être cela renvoie à des absolus différents. C'est au moment du passage de l'un à l'autre qu'est ce danger et qu'est le moment de la mitzvah. C'est clair ? Par conséquent, dans cette logique, tant que le soir n'a pas commencé, et le soir c'est le passage du jour à la nuit, tant que le matin n'a pas commencé, et le matin c'est le passage de la nuit au jour, c'est pas le temps du Kriyat Shema. Le temps du Kriyat Shema est au moment du passage. C'est clair ? Vous avez compris qu'est-ce que ça veut dire qu'une mitzvah est mitzvah par rapport à un temps particulier. Ça va ? C'est-à-dire, si on a dit le Kriyat Shema du soir alors que ce n'est pas encore le soir, alors on a le mérite d'avoir dit une parole de la Torah. On n'a pas le mérite d'avoir accompli la mitzvah qui consiste à affirmer l'unité de Dieu contre une impression possible de la perception du monde qu'on appelle la dualité. C'est clair ? Et vous remarquerez d'ailleurs que le rite du Kriyat Shema est toujours au moment du passage d'une expérience à une autre qui pourrait renvoyer à l'idée d'une dualité d'absolu. Donnez-moi l'exemple limite, à quel moment on dit le Kriyat Shema aussi ?
Le coucher.
Bon, ça c'est le Kriyat Shema du coucher ou du lever. Oui, au moment de la mort, on passe d'un monde à l'autre, c'est là qu'on affirme l'unité de Dieu. Je vais prendre cet exemple parce qu'il est le plus éclairant, c'est-à-dire il n'y a pas plus différent, radicalement différent que la vie et la mort dans le problème de la dualité. C'est clair ? Alors l'affirmation de l'unité de Dieu au moment de la mort, ça veut dire que c'est un Dieu unique quand je suis vivant et quand je suis mort. Dans le monde où je suis vivant et dans le monde où je suis mort. Rassurez-vous, la mort ça n'existe pas, ça je vous en parlerai un autre jour. Mais enfin, c'est quand même un mauvais moment à passer. Et bien quand vous verrez le verset, quand on va en voyage, on va changer d'expérience du monde. Ce n'est pas le même monde quand on est chez soi et quand on est en voyage. Et il y a donc la lecture du Kriyat Shema. Mais revenons au rite fondamental, le passage du jour à la nuit, le passage de la nuit au jour. Quel est le verset qui indique cela, que le temps du Kriyat Shema, c'est le passage du jour à la nuit et de la nuit au jour ? Vous l'avez déjà lu ? Upshur Becha, Upkomecha. Vous avez dû remarquer que le mot Upshur Becha, Upkomecha, ça ne veut pas dire la nuit et le jour, le soir et le matin. Ça veut dire quoi ? En te couchant et en te levant. Ça, vous l'apprendrez plus en détail, mais la règle est que la règle doit être fixée de manière objective pour tous. Se coucher, se lever, ça peut être très arbitraire à l'échelle individuelle. On peut s'endormir pendant le jour ou être réveillé pendant la nuit. Alors, la règle est que il est normal de se coucher quand il fait nuit et de se lever quand il fait jour. C'est la raison pour laquelle la halakha va transformer Beshur Becha en Erev, en te couchant le soir, et Upkumecha en te levant le matin. C'est clair ? Shacharit, Arbit, Shacharit. Vous suivez jusque-là ? Bon, ça aussi on aura à l'étudier en détail. Pourquoi la halakha intervient et indique que Beshur Becha ça veut dire Erev, et Upkumecha ça veut dire Boker. Première explication, c'est parce que la halakha doit fixer une règle objective. Ça veut dire, quand est-ce que c'est le soir? Quand c'est le soir, dans le monde où je me trouve, c'est le soir là où je me situe. Peut-être que dans 100 km, du point de vue du plus loin, du point de vue des fuseaux horaires, il fait encore jour. Mais là où je suis, c'est le soir, c'est là où je suis que commence l'obligation de la mitzvah. C'est clair? Une minute, je fais une petite parenthèse, réfléchissez bien à ça. Le problème de décalage des mitzvot entre ceux qui se trouvent dans le pays d'Israël et en dehors du pays d'Israël. On ne fait pas la mitzvah en même temps. Okay. Or, la Torah, c'est la Torah d'Eretz Israël. Réfléchissez bien à ça. Qu'est-ce que tu veux dire?
Oui, quelqu'un qui travaille la nuit, est-ce que ta femme vient chez moi avant d'aller travailler?
Non. Alors à ce moment-là, joue la règle que je viens de dire. Étant donné que la règle, la halakha, est fixée pour la communauté, c'est au moment où c'est le soir pour la communauté qu'on doit dire le chrétien du soir, qu'on s'endorme ou pas. Donc apparemment, la Torah Sheberalpé a transformé ce qu'a dit la Torah Sheberta. La Torah Sheberta va dire Beshrebechov Kumecha. La Torah Sheberalpé va nous parler de Harbit et de Shachrit. Vous suivez? C'est une des premières questions de la Gemara. Et ceci dit, indépendamment du Kriyat Shema de Arvit, c'est-à-dire quand le soir apparaît, c'est le temps de dire Kriyat Shema, nous avons un autre Kriyat Shema qui va s'ajouter à cette mitzvah et qui est le Kriyat Shema à la mita, ça veut dire le Kriyat Shema qu'on dit avant de s'endormir. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même écrit Ushabecha. Mais c'est un deuxième Kriyat Shema. Vous voyez, réfléchissez bien, suivez bien. La halakha a complètement transformé le problème. La Torah a dit en te couchant. La Torah Sheba'alpé va dire non, le soir. Mais puisque la Torah avait dit en te couchant aussi. Mais la mitzvah, c'est le soir. La mitzvah d'en te couchant, c'est une autre mitzvah. Ça va? Bon. Alors, j'ai pas fini, mais je t'ai vu. Donc, je vais utiliser cet exemple de nouveau pour vous faire comprendre qu'est-ce que c'est une mitzvah. Qui est mitzvah en un temps particulier, mais ni avant ni après. Et vous aurez suffisamment de détails jusqu'à ce que ça soit clair. Prenons donc le texte de la Torah. En te couchant, ça veut dire le passage de la vie éveillée à la vie du sommeil. C'est cette expérience-là qui est radicalement différente pour la conscience, et même si la conscience du moderne civilisé n'est plus sensible à cela, comme disent les modernes, l'inconscient est sensible, passer, ou les enfants sont sensibles, passer de l'expérience de la vie éveillée à l'expérience du sommeil nous fait vivre dans deux mondes tellement radicalement différents que la question informulée, mais se pose quand même, combien de dieux y a-t-il? Ça y est, c'est clair? Celui du jour, celui de la nuit. Est-ce que, j'espère que ça vous fait comprendre d'où vient l'expérience des paganismes, des idolâtries. Il y avait en particulier une très grande religion dans l'Antiquité. Et quand nous verrons le texte en détail du Kriyat Shema, les brachot du Kriyat Shema, je vous le rappellerai, elles ont été formulées face à l'atmosphère culturelle et religieuse de la religion en question, qui est le mazdéisme, la religion des anciens Perses. Vous avez entendu parler de cela? C'est parce que c'est le mazdéisme? Non. La religion de Zarathoustra, qu'il y avait un dieu du bien et un dieu du mal. Un dieu du jour, un dieu de la nuit. Le dualisme absolu. Clair. L'idée que ce soit un dieu unique qui gère le monde pendant le jour, pendant la nuit, à travers le bien, à travers le mal, est tellement non naturelle que les religions naturelles, elles, ont préféré l'expérience du dualisme. Dualisme. C'est clair jusque-là? Et ça envahit d'ailleurs même des religions apparemment bibliques comme le christianisme, dans l'opposition entre Dieu et le diable. Qui n'existe pas du tout, en tout cas pas du tout sous cette forme, dans le judaïsme. Je vais vous parler de ça puisque j'en ai parlé. Comment dit-on le diable? Satan. Satan. Okay. C'est ça? Bon, on en a fait le mot français, Satan. Et vous ne trouvez jamais ce mot-là dans la Bible. Dans la Bible, vous trouvez Satan, le Satan, et pas du tout Monsieur Satan. Okay. Vous comprenez ce que je veux dire? Il n'y a pas quelqu'un qui est Satan. Il y a une force qui joue un rôle dans le tribunal céleste et qui est une des médiations de Dieu lui-même et qui s'appelle en hébreu. Qu'est-ce que ça veut dire Satan en hébreu? Ça vous aide? Hein? Qu'est-ce que je dis? À quoi tu penses? À quel mot tu pensais? Satoum, peut-être. Satoum, c'est pas caché, c'est scellé, fermé. C'est. Satan en hébreu, ça veut dire faire obstacle. Lorsqu'on se heurte à un obstacle, et alors on dit que la force du Satan travaille. Et nous allons avoir, surtout dans l'histoire des patriarches, le Satan, c'est la Midat Adin lorsqu'elle se fait absolue. C'est-à-dire l'exigence de la justice absolue, lorsqu'elle intervient, on dit ça c'est la force du Satan. Un tzaddik risqué de trébucher, alors il se heurte à un obstacle. Le Satan va s'occuper de lui. C'est pourquoi on a peur de lui, parce que le Satan connaît son métier. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est une force du mal qui s'oppose à la force du bien qui serait Dieu. Ça, c'est la mentalité du dualisme qui a envahi même, je pense, en grande partie, la théologie chrétienne et surtout la théologie musulmane. Enfin, ça, je vous en parlerai plus en détail. Mais retenez déjà que dans la perspective de la Torah en hébreu, le Satan, c'est pas au même niveau que les anges du bien, mais c'est un des anges parmi les anges. Le Satan est pur et il fait son travail. C'est un travail terrifiant qui consiste à mettre à l'épreuve, à faire obstacle, à juger de façon absolue, donc on a peur de lui, mais ce n'est pas une force du mal qui s'oppose à la force du bien. C'est une des forces du bien, dans une limite telle que ça en devient terrifiant, la justice. Bon, j'espère que je vous ai bien dépaysé. Okay. Alors, évacuez complètement l'idée de Monsieur Satan, et retenez bien la règle. Le Satan, à ce niveau-là, ne s'occupe que des tzadikim. Il les met à l'épreuve parce qu'il n'y a que qui peuvent réussir. Avec qu'est-ce que c'est faire passer un métal au creuset, okay. C'est clair? Il y a une phrase dans le Talmud qui dit comme ça. Un chameau, on ne cherche pas à savoir s'il est cachère. Okay. C'est pas cachère, c'est pas cachère. Un agneau, ça pourrait être cachère. Alors le Satan va s'occuper de l'agneau jusqu'à ce qu'il soit sûr qu'il est cachère. C'est clair ce que je dis, okay. C'est-à-dire, vous avez dans énormément de littérature cette référence comme excuse, comme alibi, hein, c'est le Satan. Le Satan ne s'occupe pas de n'importe qui. Par exemple, vous avez le livre de Job. Oui. Et vous avez lu le livre de Job? Eh bien, là apparaît le personnage du Satan. Et vous verrez que c'est Ha-Satan. C'est Dieu qui l'envoie pour mettre à l'épreuve Job. Ça va? C'est clair? Vous vous méfiez du Satan. Il se cherche un Job. Ça lui dit. Bon, je reviens au problème. Et attends, il y avait déjà une question.
Mais non, c'était par rapport au changement de monde. Je n'ai pas si bien saisi finalement la différence entre le monde du soir
et
du...
Très bien, mais je vais répondre tout de suite. Et, je reviens au sujet. Et, nous sommes toujours dans le sujet des mitzvot qui deviennent nécessaires comme mitzvah à cause des circonstances du moment où je me trouve. C'est clair? Eh bien, je reprends la différence. Le monde de la vie éveillée et le monde du sommeil. Il me semble que je vous en ai parlé au début de l'année. Quelle est la grande différence? Vous avez eu certainement des rêves, vous voyez agir pendant le rêve. Oui. Quelle est l'impression qu'on en retient? Donc, j'ai mal posé la question, ça ne vous donne pas la possibilité de répondre.
De la dualité plus.
La dualité de quoi?
De ce propre
non. Non. Parce que quand vous êtes en train de vous voir agir, vous ne voyez pas agir. Vous avez conscience que vous agissez. C'est juste à la seconde ou à la demi-seconde où vous allez vous réveiller que vous vous rendez compte que peut-être c'est un rêve, que c'est pas un rêve. Et pendant le rêve lui-même, vous agissez comme si c'était un vrai monde. C'est clair? Voilà, la différence est là-dessus. Hein? Je ne vous ai pas parlé de la différence entre l'image et la sensation. Bon, eh bien, c'est ça la différence. C'est-à-dire, les sensations de la vie éveillée sont soumises aux lois de la nature, alors que les images du rêve ne sont pas soumises à la cohérence des lois de la nature. Alors, la grande différence, c'est que dans la vie éveillée, l'homme est libre, précisément parce qu'il est soumis à un déterminisme. Vous vous rappelez de cela? Alors que dans la vie du rêve, la vie du sommeil, l'homme n'est pas libre. Pourquoi? Parce que les images sont libres, et elles ont la cohérence capricieuse qui est la leur, et qui prive de liberté le sujet du rêve. C'est-à-dire celui qui rêve. C'est la raison pour laquelle lorsqu'on se voit dans un rêve, on se voit soi-même agir, Il en résulte une sensation de malaise parce qu'on ne se connaît pas libre, mais agi par les images. Est-ce que c'est clair ? Bon. Alors un monde où l'homme est libre et où les sensations sont ordonnées par les lois de la nature, qui est le monde de la vie éveillée, et un monde qui est celui des images, du rêve, le monde de la nuit, et où l'homme n'est pas libre, sont deux mondes tellement radicalement différents que ça risque de renvoyer à l'hypothèse qu'il y aurait deux absolus, le monde du jour ou le monde de la nuit. C'est clair ? Voilà un des exemples qui peut vous faire comprendre ce problème de la dualité de passage d'un monde à l'autre, et qui vous font comprendre pourquoi toutes les religions naturelles de l'expérience religieuse païenne, à travers tous les polythéismes possibles et imaginables, en fin de compte, sont arrivés à l'impasse du dualisme, n'arrivent pas à arriver au monothéisme. Sinon, par hypothèse philosophique, mais ce n'est pas du tout le Dieu unique dont parle la Bible. Est-ce que c'est clair ? J'ai bien compris ? Tout le monde a bien compris ça ? Bon. Alors, étant donné ce problème, que nous sommes donnés dans un monde double, duel, la Torah commence par la lettre Bet pour nous enseigner cela, que c'est la carte d'identité de notre monde. Il est en dualité. Tout nous renvoie à des expériences de dualité. L'affirmation de Kriyat Shema vient s'opposer à cette expérience-là. Ça veut dire qu'en dépit de toutes les apparences, et les apparences sont pour le dualisme, dès que je dis grand, j'entends petit. Dès que je dis blanc, j'entends noir. Si je dis homme, j'entends femme. Si je dis juif, j'entends goy. Tout est duel. Okay ? C'est clair ? Qu'en dépit de toutes ces apparences, Dieu est un. Et ça dépasse la raison. Ça, nous étudierons plus en détail quand on étudiera le créateur. Mais j'ai pas fini. Par conséquent, cette affirmation que Dieu est un a sa valeur toujours, mais elle a sa valeur de mitzvah au moment des expériences privilégiées qui risquent de me mener à l'impression du dualisme. Ces expériences privilégiées, particulières, c'est le passage d'un monde à l'autre. L'exemple fondamental, c'est le passage du jour à la nuit et de la nuit au jour. Par conséquent, et j'en arrive à notre sujet, avant le moment du soir, ce n'est pas encore la mitzvah du Kriyat Shema. C'est pourquoi, la première question sur ce sujet, le Rabbi Marat, c'est à partir de quand on dit le Kriyat Shema du soir ? Ça veut dire quoi ? À partir de quand le Kriyat Shema fait mitzvah ? Super ? J'ai changé la formule. La formule de la Mishnah, c'est « Mais matai korin et shema ba'aravin » À partir de quand on dit le Kriyat Shema le soir ? Je vais changer la formule. À partir de quand c'est le soir pour dire Kriyat Shema ? Pourquoi ? Parce que le problème du soir lui-même, c'est pas simple. Le problème du passage entre le jour et la nuit, c'est le problème du crépuscule. Vous suivez ? Vous avez tout un temps qui s'appelle le crépuscule, où c'est encore jour mais déjà nuit, déjà nuit mais encore jour. Donc la question peut se poser, quand commence ce moment que je cherche ? Au moment du début du passage ou à la fin du passage. C'est clair ? Alors, ces deux limites, vous les apprendrez d'ailleurs en halakha, la première limite du crépuscule du soir, puisque c'est les heures que je choisis, c'est le coucher du soleil. Dès que le soleil se couche, c'est-à-dire dès que le globe, on dit le globe pour le soleil ? Non, qu'est-ce qu'on dit ? Le disque solaire descend sur l'horizon, le soir commence. C'est clair ? Le crépuscule du soir commence. Et le soir s'achève quand les étoiles apparaissent. Donc tout ce temps-là, ça s'appelle le soir. Alors la Mishnah veut savoir, pour ma mitzvah du Kriyat Shema, est-ce que ce passage est effectué dès le commencement du passage ou à la fin du passage ? C'est clair ? La réponse de la halakha, vous la connaissez, je ne vous donnerai pas les raisons aujourd'hui, ça ferait autre chose à la fois, c'est qu'il faut attendre l'apparition des étoiles pour que ce soit l'heure du soir pour le Kriyat Shema. C'est clair ? Pourquoi ? Parce que tant que les étoiles n'apparaissent pas, tant que je ne perçois pas les étoiles, ça veut dire qu'il y a encore de la lumière du jour précédent dans le ciel. Parce que qu'est-ce qui me cache le fait de voir les étoiles ? C'est la lumière du soleil du jour précédent. Donc l'apparition des étoiles, c'est le signe que le soleil est vraiment complètement couché. Ça commence au coucher du soleil, ça s'achève à la sortie des étoiles. C'est clair ? Bon, on aura l'occasion de voir ça plus profondément. Le fait de commencer à dire le Kriyat Shema au coucher du soleil, ou de le dire à la sortie des étoiles, n'a pas du tout la même signification religieuse. C'est la raison pour laquelle la Gemara pose la question, quand est-ce que je vais considérer que c'est soir pour cette mitzvah-là du Kriyat Shema ? Parce que pour d'autres mitzvot, le soir va commencer au coucher du soleil, et pas à la sortie des étoiles. Par exemple, Shabbat. savez cela. Étant donné que ce moment du crépuscule est un moment de doute, est-ce que c'est encore jour? Alors ça ferait partie du vendredi. Est-ce que c'est déjà nuit? Ça fait partie du Shabbat. Alors on avance au commencement du soir, le commencement du Shabbat, étant donné la gravité de la violation du Shabbat. Et on le termine à la sortie des étoiles pour la même raison. Vous avez compris? C'est bien clair. Allez, une minute. Donc, il y avait une raison particulière, ça on n'a pas étudié maintenant, on l'étudiera plus tard. Étant donné la signification de la mitzvah du Kriyat Shema, quand est-ce le soir pour le Kriyat Shema? Je vous ai cité tout ça pourquoi? Pour définir le principe qu'il y a des mitzvot qui prennent force de mitzvah qu'à partir d'un moment précis, dans un temps précis. Ça va jusque-là? C'est clair? Bon. Mais alors, très rapidement, qu'est-ce que tu voulais demander? À propos de quoi?
À propos justement du Shabbat.
Oui, on vous donne un horaire du calendrier et dans le risque qu'il y a des nuages et que vous ne voyez pas ce qui se passe, c'est tout. Mais le risque du calendrier est calculé de telle sorte que ce soit exactement le coucher du soleil pour la veille de Shabbat ou la sortie des étoiles pour le Kriyat Shema du soir. Le matin, c'est encore un peu plus compliqué. Et simplement, je veux dire, il y a un cas particulier à Jérusalem. Normalement, le Shabbat commence au coucher du soleil partout. Okay? Dès que le soleil est couché, c'est Shabbat. À Jérusalem, on a l'habitude, c'est une tradition des kabbalistes depuis plusieurs siècles, de commencer le Shabbat 20 minutes avant le coucher du soleil. C'est pourquoi ne vous trompez pas, à Jérusalem, le Shabbat commence avant. C'est clair. Donc, mais voilà quelle est la règle. Dès que c'est Shabbat, dès que c'est le coucher du soleil, c'est Shabbat pour tout le monde, les hommes et les femmes. Donc les femmes doivent allumer les bougies avant, les lumières avant le coucher du soleil. Et maintenant, si une femme a allumé les bougies, disons, une demi-heure avant le coucher du soleil, c'est Shabbat pour elle déjà, dès qu'elle a allumé les bougies. Alors que c'est Shabbat pour l'homme, que lorsqu'il a dit l'Echa Dodi avant le coucher du soleil, ou s'il n'a pas encore dit l'Echa Dodi, au coucher du soleil. C'est clair ? Ça s'appelle Kabbalat Shabbat. La réception du Shabbat se fait pour les femmes au moment de l'allumage des bougies, et ça doit être toujours avant le coucher du soleil. Et pour les hommes, se fait au moment de la prière du soir, lorsqu'on dit les Hadodi. Mais dans tous les cas, c'est Shabbat, qu'on ait dit avant ou après, c'est Shabbat au coucher du soleil. À Jérusalem, il y a 20 minutes avant. C'est une tradition des Kabbalistes, je ne vais pas l'étudier même. Et. Bon, vous avez bien compris le problème, ok? Donc, alors, tous ces calculs artificiels, trois quarts d'heure avant les étoiles, ou 20 minutes après, je ne sais pas quoi, tout ça, c'est des artifices. La règle, c'est le coucher du soleil, la sortie des étoiles. Eh bien, je n'ai pas fini. Alors, il y a un cas particulier pour les Sfaradim, pour le Kriyat Shema du soir, du vendredi soir. Je vous l'expliquer parce que vous risquez de vous poser la question. Si vous allez au côté le vendredi soir, vous voyez que les Sfaradim font la tfila très tôt, alors que les Ashkenazim attendent pour commencer la sortie des étoiles. C'est-à-dire, les Ashkenazim considèrent, il y a des raisons pour ça, on les apprendra quand on parle de texte dans la Gemara, que même le vendredi soir, le passage du jour à la nuit, c'est la sortie des étoiles comme les autres jours. Alors, dans la tradition sfarad, étant donné que le passage entre la semaine et Shabbat est aussi fort que le passage entre la nuit et le jour, ou le jour et la nuit, dès que c'est Shabbat, même si on est encore au début du crépuscule, on peut dire le Kriyat Shema du soir de Shabbat. Est-ce que je me suis bien expliqué, vous avez compris, okay? Il y a passage du jour à la nuit. Quand? La règle est pour tout le monde, pour tous les jours de la semaine, la sortie des étoiles. Le vendredi soir, ou les soirs de fête, sauf le jour de Shavuot, il y a une raison particulière pour ça, il faut attendre 7 semaines complètes à partir de Pessah, mais le vendredi soir, ou les jours de fête, pour les Sfaradim, le passage du Chol au Kodesh a la même valeur que le passage du jour à la nuit. Et donc, dès qu'on est entré dans Shabbat, on peut dire Kriyat Shema du soir de Shabbat. C'est clair? C'est la tradition sfarade. Les Bablim, enfin, les Juifs de Mashrek. Vous savez que c'est le Mashrek? Vous savez que c'est le Maghreb? Le Maghreb, c'est à partir de l'Égypte jusqu'à l'océan. Et le Mashrek, c'est à partir de l'Égypte jusqu'en Asie. Et donc, les Juifs babyloniens font comme les Ashkenazim. Ça, vous avez appris déjà qu'ils ont la même origine. Okay? Les Ashkenaz et les Bablim et les Yéménites, vous vous rappelez de cela, okay? Mais chez les Sfaradim, du rite Sfarad vraiment, c'est la raison pour laquelle vous verrez tous ces Minyanim Sfarad commencer la prière du soir alors qu'il fait jour au Kotel, alors que les chassidim, les ashkenazim en général, attendent qu'il fasse nuit, c'est pourquoi ils prient après. Vous avez compris la différence.
Quand on dit soir, ce serait plutôt le passage de la nuit au jour, de la semaine au Shabbat.
Oui, parce que la semaine, par rapport au Shabbat, c'est comme la nuit au jour. C'est pour ça que j'ai dit la nuit au jour. Non, je veux dire le sens. T'as compris? Qu'est-ce que je veux dire?
Vous avez répondu à ma question, parce que le babiche, il commence à prier pour la sortie des doigts.
C'est le rite ashkenaz. Enfin, c'est un rite hassid, mais qui est ashkenaz. Okay.
Pourquoi la place de l'Avdala ne fait pas le schéma?
À la Avdala?
À la place de l'Avdala.
Non.
Quitte le Shabbat.
Oui, alors il y a une prière particulière pour cela, pour passer de Shabbat à Chol. Mais le samedi soir, on a passé du jour à la nuit, alors on a dit le Khatchema à Arbit. On dit aussi l'Avdala dans le Shema Yisrael d'Arbit de Moutsai Shabbat. Ça va jusque-là? Alors, voilà, tout ça, je vous ai donné un petit exemple pour vous expliquer que les deux mitzvot, de Kriyat Shema et de la Tfila, avaient leur temps différent. Deux mitzvot différentes et même leur temps était différent. Vous apprendrez ça dans les dilim. Ok? Et puis, jusqu'à la destruction du temple, c'était deux mitzvot indépendantes. On faisait la Tfila à l'heure de la Tfila, on faisait le Kriyat Shema à l'heure du Kriyat Shema, mais on ne joignait pas les deux mitzvot dans un office comme nous le faisons maintenant. C'est plus clair? Bon. Ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi, au moment de la destruction du temple, on a décidé de joindre les deux. Ça s'appelle, en tout cas ça concerne, Arbit et Shachrit. C'est clair? Mincha, il y a un autre problème, on l'étudiera ensemble. Ça s'appelle...
C'est Mincha. On frappe tous ces mots et les apprend. C'est Mincha, Ismor, ça veut dire... Joindre. Le fait de joindre, c'est Micha, la jonction entre Géoula qu'est-ce que ça veut dire Géoula?
Délivrance,
mais on va préciser l'Ikshita. Alors, c'est la jonction, on va joindre la Géoula à la Tfila. La Géoula, c'est le titre, le nom de la dernière bracha du Kriyat Shema. Elle s'appelle Birkat HaGeoula. La dernière phrase du Kriyat Shema, c'est de rappeler la sortie d'Égypte. C'est clair? Et la dernière bracha se termine en disant Gaal Israël. Gaal Israël, qui a délivré Israël de l'Égypte, ça s'appelle Geoula. Vous suivez? Vous avez déjà appris ça avec David? Le brachot? Oui ou pas?
Bien?
Bon. Oui, la dernière bracha après le Kriyat Shema, c'est la bracha de Géoula. Vous retrouverez dans le livre, on vous donne les titres de bracha. Donnez-moi un texte de création avec les bracha. Voilà. Voilà, vous prenez à l'office du matin. Alors, après le Kriyat Shema, vous avez une bracha qui s'appelle Birkat Géoula. Vous voyez ? Elle se termine par l'expression Baruch Atah Hashem, Gaal Israël. Ça va jusque-là? Alors, c'est cette bracha qui s'appelle la Géoula. Et la Tfila commence immédiatement après. Ça veut dire que dès qu'on a terminé le Kriyat Shema, et je vous prends l'exemple du matin où c'est le plus clair, parce que le soir, il y a deux brachot. Après la Géoula, il y en a encore une. Donc, prenons le Kriyat Shema du matin. Dès qu'on a fini le Kriyat Shema du matin, on a dit Gaal Israël, tout de suite, on commence le Shmoneh Esrei. On appelle Smicha. On joint l'un à l'autre. C'est un principe important dont je vous en ai à l'écran. Tout le monde a compris de quoi il s'agit. Okay? Que dès qu'on a fini Kriyat Shema, tout de suite, on commence Shmoneh Esrei. On commence la Tfila. C'est relié au fait, comme je vous ai indiqué tout à l'heure, que le temple a été détruit. Alors je vais vous l'expliquer pourquoi. Comment? Tant que le temple existait, l'intention de la prière, c'est-à-dire la première question qui se pose dans le texte de la prière, devant qui je me trouve pour prier? Qui je prie, okay. L'intention, la kavana de la prière, était dirigée par une formule très simple. Celui à qui le grand prêtre du temple de Jérusalem rend le culte qu'il rend au nom de tout Israël. Ça veut dire les fidèles de la communauté n'ont pas à être de super théologiens pour savoir de qui il s'agit, le grand prêtre sait. Qu'est-ce qui reste de cela? C'est qu'au moment de la prière, on se tourne vers l'endroit du temple de Jérusalem. Vous avez remarqué cela, okay. Faites bien attention à cela. il est arrivé par l'usage du langage qu'on dit on se tourne vers l'Orient, vers le Mizrah. Ça, c'était pour les Occidentaux, ils se tournent vers le Mizrah. Mais ceux qui étaient de leur côté, ceux qui étaient du Mizrah, se tournaient vers le Mara. On se tourne vers Eretz Israël, si on est en dehors d'Eretz Israël. Si on est en Eretz Israël, on se tourne vers Jérusalem. Et si on est à Jérusalem, on se tourne vers l'endroit du temple. C'est vrai ? Du temple. Alors, l'endroit du temple. Non, je dis ça parce que dans les pays ashkénazes, vous avez des tableaux Mizrah, pour indiquer que c'est la direction de la prière. C'est clair, mais ça ne veut pas dire forcément qu'on se tourne vers l'Orient. Mizrah, ça veut dire l'Orient. On se tourne vers l'endroit du temple. C'est clair. Et en Occident, on se tournait vers le Mizrah. Ça va ? Bon. Alors, c'est ce qui restait de là, d'ailleurs, de façon assez connue. Je reprends la formule. Quand je commence la tefila, la première kavana, c'est devant qui je me trouve. La réponse, c'est devant celui à qui est rendu le culte de Jérusalem. C'est clair. De notre lien entre la tefila et les sacrifices. Lorsque le temple a été détruit, cette référence a été détruite. Par conséquent, la question s'est posée, comment définir cette kavana devant qui je me trouve ? Alors vous allez faire une découverte importante maintenant. La réponse.